avancer dans notre étude de la Genèse, ou plutôt du dessein de grâce à travers Abraham et la famille ou la lignée d'Abraham. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 18. Et comme le titre de cette vidéo le dit, nous sommes à contempler Abraham, l'ami de Dieu. Chapitre 18, et je vais donner lecture à ce passage. Donc Genèse 18, verset 1, « L'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. » À cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. C'est la parole de Dieu et nous voulons considérer cela. Abraham, l'ami de Dieu. Nous sommes au milieu de la journée, ce qu'on appelle au Moyen-Orient la chaleur du jour. Les travaux de la matinée sont passés, le soleil est à son zénith. Peut-être un petit morceau de nourriture est venu ragaillardir l'énergie du travailleur. Et il est temps maintenant de faire un petit somme pour se ressourcer avant l'activité de la soirée. Et voilà Abraham qui s'allonge ou s'assied à l'entrée de sa tente, peut-être dans une chaise, ce qu'on appelle maintenant une chaise longue. Là, il est là où l'ombre et la circulation d'air permettent au corps de se relâcher, de se reposer. Et petit à petit, l'assoupissement vient recouvrir le vieux patriarche. Nous avons tous connu cette bienheureuse torpeur qui vient doucement nous faire flotter dans un océan de repos tellement bienfaisant. On a connu cela. Nous sommes environ 2 mois après les événements du chapitre 17 que nous avons vu précédemment. La chair d'Abraham et la chair d'Ismaël est cicatrisée et l'esprit du patriarche est redescendu de la montagne de l'expérience du chapitre 17 pour s'affairer dans le normal de la vie, toutes les affaires de chaque jour. Et le voilà qui, assis à l'entrée de sa tente ou allongé, semi-allongé à l'entrée de sa tente, flotte entre ciel et terre, bercé par un doux assoupissement. Tout va bien. Et vous savez aussi ce que c'est. Dans cette torpeur à demi-consciente, vous avez soudain conscience que quelque chose se passe. Et voilà que la sieste est finie. Pour Abraham, quelque chose vient suspendre son assoupissement et éveiller son attention. Il ouvre les yeux et voilà 3 hommes, apparemment en voyage, se tiennent devant sa tente. Et c'est le branle-bas de combat. Fini le repos de la journée. On peut se demander si Abraham a tout de suite conscience de l'identité des visiteurs. Il semble que oui. Il court hors de la tente vers eux. Il se prosterne à terre devant, avant d'adresser l'un d'eux par le titre Adonai, Seigneur. C'est un titre qui est utilisé pour Dieu. Et puis, il se précipite à droite, à gauche, comme un fou, on pourrait dire, pour préparer ce qu'il appelle un petit bout de pain, mais en fait, un festin. Et le texte de tout le début de ce chapitre alterne entre le singulier et le pluriel, ce qui semble indiquer qu'Abraham a bien reconnu en l'un de ses visiteurs celui qui est déjà venu à sa rencontre tant de fois et avec qui il a des communications depuis tant d'années, depuis cet appel initial à Ur en Chaldée. Connaissons-nous Dieu au point de le reconnaître? Ça, c'est une question qui se pose à nous, n'est-ce pas? Dans tout ce passage, nous voyons l'union entre Dieu et le croyant, l'amitié de l'alliance. C'est un concept, une idée qui est presque anathème pour le monde, c'est-à-dire que les gens parleront de présomption, mais ici, c'est ce que nous voyons. Et au travers d'Abraham et de Sarah, nous allons bien sûr voir suprêmement le Dieu de grâce. Élevons-nous au-dessus de la dimension seulement terrestre. Voyons le Dieu de l'Alliance. Et ce matin, nous aurons trois grands points, tout simplement. Et nous commençons maintenant avec le premier, la confirmation de l'amitié. Entre amis, il y a des moments où cette amitié et l'impact de cette amitié est confirmé. Et nous en sommes à un tel moment. Le Seigneur, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui va venir, qui apparaît en chair avant de venir en chair, le Seigneur, dis-je, l'ange de l'Éternel, accepte de prendre le repas qu'Abraham lui prépare. Et certains seront probablement surpris de voir la mention que Dieu mange un repas que l'homme lui a préparé. Dans la culture de l'époque, et dans beaucoup d'autres, depuis lors, et je dirais dans grande partie du monde, manger ensemble est une marque d'amitié. C'est un signe d'intimité. Et ce n'est pas pour rien que le repas ou le festin revient souvent dans le déroulement de l'Alliance. Le moment le plus intime que Jésus passe avec ses disciples, à l'ombre même de la croix, se centre autour d'une table. C'est un repas, c'est la scène, et qui rappelle ce repas que les Israélites ont mangé à la hâte avant de sortir d'Égypte, mais qui annonce aussi ce repas du Seigneur. Et c'est là, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Le serviteur n'est pas assis à la même table que son maître. Les amis, oui. Et c'est autour d'un repas que l'assemblée des croyants se réunit pour communier avec son Rédempteur. Et c'est un banquet de noces qui dépeint la complétude, la perfection du salut dans les lieux célestes. Mes amis, mangez-vous avec le Seigneur? Est-ce que chaque jour, vous partagez la nourriture qu'il vous apporte? Et dans le cours de ce repas ici, au chapitre 18, dans le cours de ce festin que Abraham a préparé à la hâte, et si on passe du temps dans les détails, on voit que c'était des mets de choix, des choses difficiles à se procurer dans cette région. Eh bien, dans le cours de ce repas, nous voyons le Seigneur précise que la promesse qu'il a annoncée depuis si longtemps déjà est sur le point de s'accomplir à travers d'Abraham. À cette même époque, dit-il, ou, comme on peut le traduire, dans le temps de l'année, c'est-à-dire au terme de la grossesse qui va apporter l'héritier promis. Dieu a déjà dit cela à Abraham il y a environ 2 mois, et nous avons déjà vu cela. Maintenant, à travers Abraham, Dieu parle directement à Sarah. Et c'est notre sous-point ici, Sarah. Nous voulons regarder Sarah, parce que Abraham, en quelque sorte, s'estompe, et c'est un échange entre l'Éternel, entre l'ange de l'Éternel et Sarah. Sarah est dans la tente, pas très loin de l'entrée de la tente, il semble, et elle est probablement, oui, même vers l'entrée. Et certains ont pensé qu'elle espionnait les échanges entre les visiteurs et son mari. Elle ne veut pas manquer ce qui se passe. Mais il semble plutôt qu'en pleine obéissance à son rôle d'épouse, elle restait présente tout en demeurant invisible, comme le voulait la tradition de l'époque. Et l'Éternel lui parle à elle maintenant. Et c'est une marque de grande grâce. En effet, on peut imaginer qu'il y a une sorte de mini-tempête et de confusion dans le cœur de cette femme. Imaginez un peu, mettez-vous à sa place. Il ne fait aucun doute qu'Abraham a partagé avec elle le contenu de la rencontre avec l'Éternel 2 mois avant et l'imminence de la promesse. Et Sarah est une femme de foi. Elle suit son mari, comme nous le dit le Nouveau Testament. Mais en même temps, et c'est ce qui crée la tempête, Abraham s'est circoncis, signe de l'alliance, n'est-ce pas? Mais il a aussi circoncis Ismaël, le fils de l'esclave. Qu'est-ce que cela veut dire, se demande cette femme, Sarah? Une femme qui est tellement consciente de son âge. Elle est vieille, comme Moïse le précise au verset 11. Sarah est vieille, Abraham est vieux. Et l'Éternel lui dit personnellement qu'un fils sortira d'elle, et cela très bientôt. Et si on en croit Hébreux 11, il est même possible que cette voix qui parle à Sarah et qui un jour ramènera Lazare à la vie et donner la vie au corps mort de ce vieux couple, alors même qu'il parle à Sarah. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, maintenant nous commençons à voir le sens de cette interminable attente que nous avons suivie. Dieu ne joue pas avec sa créature, et encore moins avec ses bien-aimés. Il montre simplement, dans toute cette attente, ces longues années, que le salut vient de l'Éternel seul. Et nous avons besoin de cette précision, parce que nous sommes tellement enclins à prendre les choses en main, comme Abraham, comme Sarah, à de nombreuses reprises. Toute sa vie, mes amis, Sarah a été stérile. Et c'est un gros problème. Mais on a entendu parler de femmes stériles qui ont finalement donné naissance. Il peut y avoir un petit bout d'espoir, n'est-ce pas? Mais ici, tout espoir est passé. Non seulement Sarah est stérile, mais elle est vieille, comme elle dit. Et en fait, le mot qu'elle utilise, c'est le mot « elle est usée », prête à être jetée. Elle ne sert plus à rien. Elle ne peut plus servir à rien dans le dessein d'élection, dans le dessein de rédemption, dans le dessein de Dieu, selon ce que l'homme voit venir. Elle a passé l'âge d'avoir des enfants. Stérile, passé l'âge, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Et c'est là, précisément, que Dieu intervient. C'est là, précisément, que Dieu veut en venir. Parce que ce n'est pas tout. À l'écoute de la précision de la promesse, Sarah se parle en elle-même. Et Moïse cite ou mentionne tout cela pour bien montrer que le salut vient de l'Éternel seul. Sarah se parle en elle-même et elle se met à rire en silence. Et on comprend très bien ce qui se passe en elle. Et tant de choses ont été dites sur Sarah. Mais c'est une erreur. Sarah, ne l'oublions pas, est une femme de foi. C'est une femme de grande foi. Mais c'est une femme. Et elle réagit comme un être humain. Elle raisonne devant l'impossibilité. Et elle utilise l'impossibilité comme facteur dans sa foi. Et cela la fait rire d'incrédulité. Mais la chose est là pour mettre en lumière à la fois la finitude de l'être humain et la divinité absolue de l'Éternel. Même la foi de Sarah est déficiente. Ça n'est pas la foi qui procure la promesse, c'est la foi qui se saisit de la promesse. Mais la promesse s'accomplit par la parole de Dieu. Bien que lui tournant le dos, l'Éternel a entendu les pensées de Sarah et il a entendu son rire. Abraham, lui, n'a rien entendu. Sarah, elle, n'arrive pas à saisir la promesse à pleine main encore. Mais l'Éternel a entendu. C'est lui qui règne, c'est lui qui dirige. Et lui qui entend les pensées et le rire silencieux, lui, ne peut-il pas agir dans le corps pour accomplir sa promesse? Bien sûr que si. Et c'est exactement ce qu'il fait. Oui, mes amis, le salut ne dépend en absolument rien qui vienne de l'homme. Aucun apport de l'être humain. Il est tout de Dieu. Même devant le déploiement de la souveraineté de Dieu, Sarah ment. Elle a peur, comme l'être humain qu'elle est. Mes amis, voilà le salut dont nous avons besoin. Voilà l'alliance qu'il nous faut. Voilà le seul sauveur qui répond à notre cas. Tous nos efforts, même les meilleurs, où est-ce qu'ils nous ont menés? Nous n'arrivons pas à comprendre comment ce salut s'articule. Quand on pense comprendre, c'est là, en fait, qu'on comprend probablement le moins. Venons sans cesse dans l'obéissance, dans la joie et dans l'adoration devant ce grand Dieu de grâce. Nous avons vu la confirmation de l'amitié. Dieu vient annoncer à son ami et à sa femme ce qu'il fait. En deuxième lieu, voyons la confidence ou les confidences de l'amitié. La Bible parle à plusieurs reprises d'Abraham comme l'ami de Dieu. Et l'amitié est une merveilleuse bénédiction, surtout si c'est l'amitié de Dieu. Mais elle entraîne des responsabilités, ou des réalités plutôt, des états de fait. Je me rappelle, par exemple, il y a longtemps, avoir été blessé un jour en apprenant par une tierce personne qu'un de mes amis ou quelqu'un qui se disait un ami qu'il allait se marier. Il avait bien ses excuses quand on a parlé pour ne pas avoir été celui qui m'en avait informé le premier. Et ok, étant ami, j'ai accepté ses excuses, mais il faut avouer que l'amitié en avait pris un coup. Parce que l'amitié entraîne des responsabilités, des réalités. Et ici, nous voyons Dieu introduire son ami dans certains de ses conseils. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? L'amitié qui unit des amis à la mesure du fait qu'ils ne se cachent rien. Et en posant la question, l'Éternel pose la question très probablement aux deux anges, il parle aux deux anges qui l'accompagnent. Cet ange de l'Éternel, il n'agit pas comme un simple homme, comme nous avons pris l'habitude de nous y attendre. On le voit qui agit dans des termes que nous comprenons, mais il agit en tant que Dieu. En fait, Dieu montre à Abraham qu'en lui dévoilant son dessein, ici le dessein qu'il a pour Sodome, c'est en fait au peuple de l'Alliance, au peuple de la foi, que Dieu promet son amitié et sa présence. C'est ce qu'indique le prophète Amos, par exemple, quand il dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » C'est dans son chapitre 3, si vous voulez vérifier, au verset 7. En fait, Dieu, ultimement, son amitié est à travers la descendance d'Abraham. C'est pour cela que nous avons tout ce passage qui mentionne que Abraham va enseigner ceux qui vont venir de lui, selon la promesse, n'est-ce pas ? Mais l'amitié de l'Éternel est avec son oint, son Messie, celui qui est son égal, celui qu'il envoie pour accomplir le dessein de sa grâce. Ainsi, Christ vient comme celui qui est intime avec les secrets de l'Alliance, celui qui connaît chacun des noms de ceux qui sont aimés depuis toute éternité. Il est celui qui apporte la liberté aux captifs. Et tout au long de cette ancienne alliance, la connaissance de Dieu va perdurer. À travers ce peuple que nous avons vu tout à l'heure, tellement rebelle et tellement prompt à se détourner de l'Éternel, mais il y a toujours ce reste. C'est une alliance, une connaissance de Dieu qui perdure, pas tant au sein de ce petit peuple dans un coin de la planète, un peuple, une nation. Non, c'est plutôt à travers ceux qui, instruits dans la promesse, la reçoivent par la foi d'Abraham. Et vous, mon ami croyant, Dieu ne s'est-il pas révélé à vous dans sa grâce, simplement pour vous donner, et il ne l'a pas fait, simplement pour vous donner un ticket pour le ciel, afin d'éviter l'enfer? Non. Comme Abraham et sa maison après lui, vous avez la responsabilité d'annoncer l'alliance de Dieu et d'annoncer le Dieu de l'alliance. Comment le faire? Regardons au verset 19, où nous lisons « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. » En gardant la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Vous voyez que marcher en nouveauté de vie, c'est beaucoup plus que vivre une vie morale, simplement, que suivre un code. Non, c'est énormément plus. C'est quelque chose de complètement différent. C'est rendre un bon témoignage à la grâce de Dieu, comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, en son temps, a rendu témoignage à Dieu son Père. La confidence, les confidences de l'amitié. Dieu révèle à son peuple ce qu'il fait en Christ. Troisièmement, la confiance de l'amitié. Nous avons vu la confirmation qui accompagne le fait d'être ami, les confidences, la confiance de l'amitié. Dieu dévoile donc qu'il va détruire les villes de la plaine car elles ont mis un comble à leur méchanceté. Ne nous laissons pas accaparer par la manière tellement humaine dans laquelle ces choses sont écrites. On a l'impression de se trouver un peu au marché où il y a des marchandages, n'est-ce pas ? Ne nous laissons pas accaparer par cela. Nous comprenons bien le vrai sens de toutes ces paroles-là. Avons-nous conscience que le mal pousse une clameur ? Tout mal pousse une clameur. Ici, c'est une clameur contre la justice et la droiture de Dieu. Les gens de Sodome, les gens de Gomorre et des villes de la plaine n'avaient aucune conscience qu'en vivant selon les pulsions de leur chair et les désirs de leur cœur, ils se tressaient contre Dieu. Pour eux, c'était simplement une question terrestre, une question d'eux-mêmes. Ils étaient leur propre divinité. Mais ce qu'ils faisaient et ce qui les habitait, cet esprit de rébellion, de haine de Dieu, poussait une clameur contre la nature même de Dieu. Plus tôt, dans la Révélation, nous voyons que le sang d'Abel avait crié pour demander que Dieu tire vengeance du mal et qu'il accomplisse son dessein. Tout mal se dresse contre Dieu et cherche à le détrôner. C'est ce que David avait bien compris. L'incroyant pense persécuter le chrétien. Souvent, il fait cela pour faire taire sa propre conscience, sans en avoir même conscience lui-même. Mais il n'a pas vraiment conscience que de la vraie dimension de sa haine. Et nous voyons le Seigneur venir vers son ennemi et dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Une clameur. Mais la confidence de Dieu à son ami n'est pas simplement un sujet qui fait partie des infos de la journée. Non, nous voyons cela dans ce qui suit, dans tout le passage qui suit. Dieu a révélé ce qu'il va faire. Il a révélé une partie de son dessein. Et la révélation de Dieu invite son ami à réagir. Et c'est exactement ce que nous voyons. Souvent, quand on voit les annonces de jugement dans la parole de Dieu, il y a des gens qui se dressent, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu sanguinaire et tout cela ?» Mais en fait, l'annonce du jugement, l'annonce de la venue d'un jugement, c'est une marque de grâce. Parce que le jugement ne s'est pas encore abattu. Et il est toujours temps, n'est-ce pas ? Nous avons vu cela tout à l'heure dans Amos, et on le voit à travers toute la révélation de la parole de Dieu. En sous-point, nous voulons voir maintenant la tractation ou les tractations de l'amitié. Alors, bien entendu, tout ce passage est couché en termes de l'époque. Comme je l'ai dit, on a l'impression de se trouver au marché à bestiaux. On commence à marchander sur les prix. Mais nous aurions tort de nous focaliser sur cela, et encore plus de fonder notre théologie sur le fait qu'il semble qu'on peut forcer la main de Dieu pour l'amener à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Non, il n'est rien de cela du tout. L'homme n'est pas assez souverain pour cela. Que se passe-t-il ici? Eh bien, nous avons tout simplement un échange entre amis. Un échange entre amis. Mais attention, attention, ami ne veut pas nécessairement dire égaux. Ici, l'Éternel reste le grand Dieu, celui qui est autre. Et Abraham est toujours une créature, sauvée de son péché par la grâce de Dieu, mais il est créature. Il ne faut pas inverser les rôles, comme beaucoup ont tendance à le faire. Mais, ceci étant dit, en révélant sa volonté et son dessein, en fait, Dieu invite son ami à intercéder. Intercéder pour quoi ? Intercéder pour que les villes impies soient épargnées ? Non, et d'ailleurs, elles ne le seront pas. Intercéder pour que les justes qui éventuellement se trouvent dans ces villes soient épargnés, oui, mais ce n'est pas le cœur de l'intercession d'Abraham. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'il amène comme raison pour son intercession. En fait, ce qui est au tout devant de son cœur, c'est la nature de Dieu et l'honneur de Dieu. Est-ce que celui qui est le juge de toute la terre, est-ce qu'il fera justice à l'incroyant? Et est-ce qu'il condamnera le croyant? Ça n'est pas possible. Sa nature ne peut pas le permettre. Vous voyez, c'est ce qui est au-devant de l'esprit d'Abraham. Il veut que Dieu révèle qui il est. Bien entendu, Abraham pense à Lot, qui est à Sodome. Et nous le verrons la fois prochaine. Mais il a les yeux fixés sur Dieu. Et la manière dont Dieu parle invite Abraham à intercéder. Il dit, la clameur est montée, le cri est monté, et je vais descendre voir. Laissons les mots humains de côté. S'ils ont agi entièrement de cette manière-là, si le cri est vrai, alors je le saurai. Je le saurai. Eh bien ça, mes amis, c'est une porte ouverte à l'intercession. À ce que l'ami vienne et dise, mais attends, il y a encore quelque espoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas une marque d'indécision de la part de Dieu, que Dieu doit se renseigner un peu plus, ni du fait qu'il n'a pas toutes les informations. Non, c'est une marque de l'intimité qui existe entre son peuple et lui. Et aujourd'hui, vous qui êtes croyants, vous entendez l'annonce du jugement. Vous entendez l'annonce de cette perdition pour quiconque ne se repent pas. Eh bien, c'est une invitation. Invitation à venir, mais surtout, pour vous qui êtes croyants, invitation à intercéder. Intercéder. Et de la même manière qu'Abraham. D'une manière, Dieu fait intervenir l'intercession de son peuple dans l'accomplissement du dessein qu'il a arrêté. Il invite son peuple à entrer dans ce dessein. Si vous ne comprenez pas la chose pleinement, alors nous sommes ensemble. Mais c'est le dessein de Dieu, n'est-ce pas? Et bien sûr, cela est déjà un modèle qui révèle la réalité d'intimité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils prie pour ceux que le Père lui a donnés, afin qu'ils ne soient pas perdus. Il intercède maintenant pour son Église, à chaque moment, en ce moment même. Il est à la droite de Dieu, à la droite de l'autorité divine. Et il intercède, il intercède. Et l'Esprit, lui, nous aide dans notre prière. Il intercède en notre faveur. Il remet les choses correctement car nous ne savons même pas comment prier. C'est un modèle ici. Et Dieu invite Abraham, son ami, à intercéder. Nous ne comprenons pas comment Dieu le fait, mais il fait entrer cette intercession dans son dessein. Parfois, nous nous interrogeons. Il y a des aspects de la révélation biblique qui montrent que le dessein arrêté de Dieu est vraiment quelque chose de fixé. Et il y a d'autres passages où on voit le Seigneur, l'Éternel, se détourner du mal qu'il avait dit qu'il allait faire. Et cela se passe souvent suite à l'intercession de son peuple. Et nous sommes un peu dans la perplexité. Nous nous demandons, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que la chose est arrêtée ou est-ce qu'il y a place pour l'intercession? Eh bien, mes amis, nous ne sommes pas en présence d'un Dieu capricieux et changeant, mais nous sommes en présence du Dieu de grâce, dont Abraham était l'ami. Abraham, le père des croyants. Un Dieu devant qui son fils fera paraître une épouse parfaite, dont tous les détails sont connus. Mais l'histoire continue de se dérouler. Et, ami croyant, ne vois-tu pas que Dieu, en attendant, montre, et il n'est pas en train de montrer que son bras est trop court et qu'il a besoin de temps pour arriver à accomplir son dessein. Non, il avance vers l'accomplissement total et parfait de son dessein, selon ce qu'il a prévu. Il n'y a rien qui est trop tard, plus tard, il n'y a pas d'obstacle. Et il fait cela en utilisant le témoignage de son peuple. La parole de Dieu dit, car il ne veut pas qu'aucun soit perdu. Et donc, il faut aller à la recherche de toutes ces brebis. Il faut que ces brebis qui sont perdues, que Dieu connaît, mais qui ne le connaissent pas, entendent la voix du berger. Et Dieu fait cela en soufflant sur l'annonce de sa volonté et l'annonce de sa grâce et en entendant l'intercession de son peuple. C'est la merveille de l'union qui existe entre Christ et son peuple. Pourquoi Abraham marchande-t-il? Osons les mots. Parce qu'il est l'ami de Dieu. Parce que Dieu lui ouvre la porte pour cela. Et Dieu le fait. Mais pourquoi est-ce que Abraham s'arrête-t-il à 10 justes? Pourquoi ne pas aller jusqu'à 1? Parce que on peut se demander, n'est-ce pas? Parce que bien que Lot soit sur son esprit, et il est très probable qu'Abraham sache qu'il n'y a pas même 10 justes dans Sodome. Bien que Lot soit sur son esprit, les regards d'Abraham sont sur Dieu. Et il s'arrête là parce qu'il sait que Dieu fera justice justement. Non pas à la manière de l'homme, non pas à la mesure de l'homme. Peu importe les 10, les 1, les 40, les 50 maintenant. Il y a des moments, mes amis, où le croyant sait que Dieu l'a entendu. Peut-être ce sont des moments rares dans notre expérience, mais il y a des moments ainsi. Et c'est un tel moment pour Abraham. Il sait que Dieu l'a entendu. C'est son ami. Toutefois, veillons à garder à Dieu sa divinité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, c'est lui qui décide. Abraham intercède, mais finalement, bien que Dieu agisse selon ce que Abraham a demandé, il le fait à sa manière. Il n'y avait qu'un juste dans Sodome. Et la ville n'a pas été épargnée, mais le juste a été épargné. Dieu a fait cela à sa manière, en utilisant l'intercession de son peuple, de son ami. Ces choses nous dépassent, mais elles sont révélées de cette manière-là. Et c'est là la beauté de l'amitié de l'Éternel, mes amis. Il n'est pas un copain, mais il nous introduit dans son amitié. C'est quelque chose de bien différent. C'est la beauté de l'amitié qui procure assurance, hardiesse, mais aussi une soumission, un respect. On sait qu'il est toujours Dieu. Et cela nous fait penser à cette autre requête qui était donnée dans l'humanité, en fait, dans le jardin à Gethsémané. « Ô Père, si cette coupe peut passer loin de moi, parce que ma chair se recroqueville, n'est-ce pas? » Mais ce n'est pas la fin de l'intercession. La fin de l'intercession, c'est toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, soit faite. Mes amis, est-ce que nous sommes de ce peuple? Habités de la foi des élus, familiers de Dieu, mais pas familiers avec Dieu. Est-ce que nous sommes de ceux qui se reposent sur autre chose que la parole de Dieu? Parce que si nous le faisons, alors nous ramenons Dieu à notre niveau. Et c'est un grand déshonneur. C'est un grand déshonneur. En revanche, ceux qui, pour l'honneur de Dieu, témoignent et intercèdent dans ce pauvre monde et pour ce pauvre monde, pour le peuple de Dieu dans ce monde, eh bien, ces gens-là, mes amis, s'élève au niveau d'être en Christ, les amis de Dieu. Ce sont en fait les enfants de Dieu. Oh, que Dieu nous permette, à travers la révélation de ce passage, de comprendre que Dieu est à la fois proche et tout à la fois divin, autre. Nous nous approchons de lui, mais nous nous approchons de lui comme des créatures. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. Si c'est pour nous-mêmes, mes amis, nous n'avons pas la justice par nature qui nous permet d'être en présence de Dieu. Mais Dieu s'est pourvu les moyens pour nous conférer son amitié. C'est renversant, mais c'est exactement cela. Et donc, en entendant sa voix, quelle est la voie à suivre? Eh bien, ça n'est pas d'endurcir notre cœur en pensant que nous savons, en pensant que nous allons pouvoir réussir. Non. La voie, c'est de ne pas endurcir notre cœur, mais de venir dans l'humilité, la repentance, sachant que Dieu est un Dieu de grâce. Chrétien, réjouis-toi, car tel est ce Dieu, ton Dieu. Et à toi qui entends et qui ne le connais pas, tremble. Mais tremble plein d'espérance et viens vers lui, afin qu'il te fasse grâce. Car c'est le seul qui peut faire grâce. Que son nom soit glorifié. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous remettons à toi et nous te demandons que dans ta grâce, tu fasses avec chacun d'entre nous, non pas selon la mesure de notre compréhension, selon la mesure de notre amour ou toute mesure qui vienne de nous, mais que tu agisses pour nous et en nous à la mesure de ton amour qui est en Christ. Nous savons, Seigneur, que aucun de tes élus, aucun de ceux que tu as aimés de toute éternité ne pourra jamais se perdre. Et Seigneur, nous te laissons les détails de cela et nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse courir de par le monde, que ton esprit puisse manifester sa toute puissance, afin qu'aujourd'hui encore, Seigneur, le pécheur entende la voix du berger, se tourne, se détourne de lui-même, se tourne vers toi et vive. Ô Seigneur, sois béni en toutes choses, en Jésus-Christ. Amen.